la grosse nouvelle nationale, vous allez en entendre parler toute la journée, puis toute la semaine, et probablement tout le mois, parce que ça va avoir des impacts économiques, des impacts politiques, assurément. C'est cette décision de Tech Frontier d'abandonner son projet de 70 milliards, en fait, qui promettait 70 milliards de retombées dans les sables bitumineux au nord de l'Alberta. C'était le plus gros projet privé au Canada.
On vous en parlait il y a quelques semaines de cela qu'avec LNG Canada, donc le gazoduc Coastal GasLink, oui. Qui est le gazoduc qui pose problème actuellement dans les blocus ferroviaires. Il y avait ce projet-là, il y avait Tech Frontier et il y avait aussi GNL Québec que nous, on est en train de vivre.
C'est les trois gros projets.
Il y en a un de 14 milliards, le nôtre. Je pense que c'est quatre fois plus gros du côté de LNG Canada. Et le projet de Tech Frontier, c'était quelque chose comme 40 milliards de dollars. Oui. Et tout était approuvé. En fait, l'Agence de l'environnement avait des conclusions comme quoi, côté environnement, c'était pas génial, mais pour l'intérêt national, il fallait aller de l'avant. Le dossier était maintenant au bureau du ministre de l'Environnement et même plus haut, au cabinet du premier ministre. Et la décision devait se prendre le 28 février. Et on savait qu'il y avait beaucoup de tractations à l'intérieur du gouvernement pour ne pas appuyer ce projet-là, pour ne pas aller de l'avant. Et là, c'est le promoteur qui, hier, à 22h50, a décidé de se retirer avec des pertes de 1,3 milliard de dollars.
En disant, il y a trop de contestations, nous autres, on n'est plus là. On n'est plus là, on se retire littéralement. Maintenant, est-ce que les contestations ont eu raison d'un projet privé ou il y a d'autres raisons? Jean-Thomas Bernard, qui est économiste spécialisé en ressources naturelles, est avec nous ce matin. Monsieur Bernard, bon matin.
Bon matin.
Tout d'abord, y croyez-vous à cette raison donnée par l'entreprise des contestations pour abandonner un aussi gros projet?
Bien, disons, c'est pas négligeable. Dans le contexte actuel, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé avec Transmontane, hein, mm-hmm. puis aussi l'autre projet que vous avez mentionné, le Coastal GasLink, actuellement, disons, la difficulté que le Canada a à mettre en place un cadre réglementaire qui donne des signaux relativement clairs en ce qui a trait aux promoteurs de ces projets-là. Donc, ça, c'est une difficulté majeure. Puis, c'est certain que l'incertitude réglementaire joue un rôle dans la décision. Mais il ne faut pas perdre de vue que le prix du pétrole n'est plus ce qu'il était. La période dorée pour la construction des projets de sable bitumineux, ça a été 2010 à 2014, alors que le prix du pétrole était de l'ordre d'environ 100 $ et un peu plus, et surtout stable. C'est une période qui n'avait pas existé avant et qui a très peu de chances de se reproduire. Présentement, le prix du pétrole, il est plutôt de l'ordre de 50-55. Hein? C'est la moitié, ça, à peu près. De 100 $. Donc, c'est certain que des projets qui étaient bien rentables à 100 $, ben, lorsqu'on tombe à 50-55, avec de la variabilité, c'est moins évident. Puis, évidemment, il y a la difficulté du cadre réglementaire du Canada, mais il y a aussi la perspective de long terme du marché pétrolier. Faut dire que à l'échelle de la planète, on consomme, 80-82% de l'énergie que l'on consomme est de nature fossile. Donc, ça nous donne une idée de l'ampleur de ceux qui veulent combattre les émissions de gaz à effet de serre. Mais la partie dure là-dedans, dont un peu plus de 40%, c'est le pétrole. Parce que tous les moyens de transport reposent encore presque exclusivement sur le pétrole. Oui. Mais il y a quand même beaucoup d'efforts qui se font présentement pour changer ça. Et dans un projet comme ça, on sait que l'horizon, c'est 40 ans. Alors, quelle sera la demande pétrolière dans 25, 30, 40 ans? C'est très, très difficile à prédire. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur le plan économique. Le prix est faible, l'ampleur de l'effort de réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça va donner comme résultat? C'est certainement des handicaps de nature économique.
Si je comprends bien, donc, la raison numéro un, l'incertitude, mais la compagnie, de par le cadre réglementaire, ce serait le coup de grâce un peu, si on peut penser ainsi envers ce projet-là?
Disons, c'est certain que ce que l'on observe présentement, ça n'incite pas, parce que là aussi, il y aurait eu de l'opposition. Mais il faut dire que, disons, le fait que la compagnie se retire, ça enlève quand même une épine dans le pied de M. Trudeau. Je suis certain qu'il va sourire au déjeuner ce matin, là, alors qu'autrement, il aurait grimacé. Parce que lui, il tient un discours très favorable à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis approuvé un projet qui ajoute 4 millions de tonnes là, par année. Bon, le Canada émet, si ma mémoire est bonne, là, quelque chose qu'on est autour, je crois, de 700. Bon, on peut dire que c'est pas si énorme que ça, mais lorsque la politique c'est de réduire, puis qu'on ajoute là, de façon significative, ben c'est certain que ça donne pas de la crédibilité à l'effort du gouvernement.
Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les projets plutôt gaziers comme LNG Canada, GNL Québec, ces projets-là qui, selon les opposants, ajoutent aussi des gaz à effet de serre au Canada? Est-ce que ces deux projets-là, voyant ce qui se passe aujourd'hui, sont en danger aussi de se retirer ou le marché est complètement différent puis là, on assiste plutôt à une rentabilité sûre?
C'est quand même un marché différent. Parce que, disons, sur le plan environnemental, il y a une opposition, on va dire, directe, de front, là, au pétrole. Pour le gaz naturel, cette opposition-là, elle est quand même, c'est une énergie fossile, mais ça émet quand même beaucoup moins, en tout cas, que le charbon. Puis, c'est utilisé, ça pourrait être utilisé comme... on appelle ça
une
énergie de transition, ou encore comme énergie de point. On a beau installer des centrales éoliennes ou solaires, mais ça, c'est comme on sait, c'est l'énergie intermittente. Ça prend quelque chose d'autre pour affermir ça. Mm. Puis l'autre chose, présentement, parce que les batteries ne sont pas disponibles là, en volume suffisamment important, en capacité assez importante, bien, l'énergie d'appui, c'est justement la génération gaz naturel. Donc, le marché pour le gaz naturel, lui, va demeurer, je crois, bon, même si on fait des efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est effectivement un marché différent. Puis, nous, ici en Amérique du Nord, on a le prix du gaz naturel le plus bas au monde. Puis, on manque pas de gaz. Puis, depuis la révolution du gaz de schiste, là, les prix ont chuté. Ils sont passés, bon, pour un ordre de grandeur, ils sont passés comme de 10 $ à 2-3 $. Donc, alors qu'en Asie, ça n'a pas été le cas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est évidemment prendre du gaz naturel à un endroit où il n'est pas cher, puis l'emmener à un endroit où il a un prix beaucoup plus élevé. Puis, qu'en même temps, joue un rôle environnemental positif, parce que ça sert en partie à réduire la consommation de charbon. Okay.
Parce que les opposants au projet gazier, évidemment, toujours pour leur dire que là, le marché du gaz est en train de s'effondrer, puis sur un horizon de 30 ans, c'est pas une énergie d'avenir, donc vous n'êtes pas de cet avis-là, si je comprends bien.
Donc, je penserais que pour les 20-30 prochaines années, le marché du gaz naturel va rester relativement bon, justement parce qu'il va jouer un rôle dans la transition, hein, selon l'argument que vous avez fait tout à l'heure. Là, même si on va vers de l'énergie renouvelable, qui présentement coûte pas cher, puis qui va rester pas cher, là, le solaire et l'éolien, ça coûte pas cher. Mais on n'a pas encore les batteries, on n'a pas encore la capacité de batterie pour régler le problème de l'intermittence.
Mais
compte tenu du volume qu'on veut utiliser là, en termes de solaire et d'éolien, ben, ça va prendre une autre forme pour raffermir cette production-là. Ben,
l'autre crainte des opposants qu'on entend souvent, c'est qu'en ayant du gaz comme ça qui inonde le marché, on risque de faire baisser le prix du charbon et finalement de ne pas avoir de véritable impact parce que les pays vont continuer à utiliser le charbon vu qu'il est encore de moins, qui est encore moins cher. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévoir? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver?
Donc, ça, cet argument-là, ça s'applique au charbon, ça s'applique aussi au pétrole. Hein, si on a du succès à réduire la demande pour le pétrole, pensez que le pétrole, le coût de production là, en Arabie Saoudite, c'est à peu près 5 $. Avant que ça affecte la production là, à l'échelle mondiale, on a du chemin à faire. Oui, ouais. C'est un argument qui est valable. Hein, lorsqu'on réduit la demande, ça va baisser le prix. Donc, c'est pour ça qu'il faudra appuyer les changements technologiques qui visent à réduire la demande pour ces produits-là. Il faudra appuyer ça aussi de taxes. Parce qu'autrement, alors on sait que le DAX, ça va augmenter le prix, ça s'ajoute au coût. Donc, il faudra appuyer les changements technologiques vers d'autres formes d'énergie par des taxes sur les formes d'énergie fossile. On n'y échappera pas.
Jean-Thomas Bernard, merci beaucoup.
Vous vous souhaite une belle journée.
Une bonne journée. Jean-Thomas Bernard, qui est économiste spécialiste en ressources naturelles, donc Tech Frontier. Marché incertain. Regardez, oui, les manifestations, ça n'a pas aidé. Oui, l'opposition, puis la lenteur du gouvernement, puis le cadre réglementaire pas précis. Là, la goutte, probablement la goutte qui a fait déborder le vase. À travers un marché qui est, dans les 50 prochaines années, pas très certain.
Mais c'est une belle jambette.
C'est une belle jambette au gouvernement.
On voit que ça ne fonctionnera pas. On se doutait bien qu'on allait se retirer.
En fait, ça peut marcher, mais c'est trop d'investissement pour prendre le risque.
Puis là, on se dit... Ah ben, gars, donc, ouais, en même temps.
Ouais, petite jambette à Trudeau.
Petite jambette à Trudeau en passant. Et c'est intéressant ce qu'il dit sur les taxes, parce qu'en fin de semaine, il y avait un article qui nous disait que la taxe, le marché du carbone allait augmenter puis qu'on allait avoir l'impact sur le prix à la pompe. Donc là, on a 5 sous actuellement de taxes environnementales, ça pourrait passer à 10 sous. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'effectivement, les pays qui vont passer au gaz naturel, puis il va falloir être conséquent, puis ça, c'est à l'international que ça se passe. Si on est pour vendre du gaz naturel pour remplacer le charbon, il va falloir que ces pays-là taxent le charbon.
Oui. Ben oui.
Pour être sûr que...
qu'on va vers une énergie moins polluante.
Il va falloir coûte forcer, moins cher. Ben il va falloir forcer les consommateurs vers ça. Et à l'inverse, c'est ce qu'on va vivre ici aussi avec les véhicules à essence.
Oui, sauf que le problème des véhicules à essence, c'est qu'on n'a pas mieux pour l'instant. Puis là, je pense à la flotte industrielle au grand complet. Parce que je lisais en fin de semaine des gens qui se réjouissaient. Là, ah oui, enfin, on taxe les voitures à essence, passez aux voitures électriques. T'as peu, vous n'avez pas pensé à votre épicerie, vous autres. Là. Les camions qui circulent, chargés de fruits et légumes, puis de viande, ben, ils marchent au pétrole, puis ils sont pas électriques encore. Alors ça va avoir une incidence sur le prix de toutes les denrées qu'on consomme actuellement. Alors la hausse du prix de l'essence et la nouvelle taxe, parce que oui, entre 5 et 10 sous, il y a une nouvelle taxe qui va être appliquée bientôt, là. Taxe environnementale sur l'essence, pour le commun des mortels, c'est une chose, mais pour le commerce en général, la construction, tout va augmenter. Là. Ça va forcer une inflation, assurément. 7h53.
On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay, le show du matin.